Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en août 2011 et c'est le numéro 7. Bonjour à tous, bonjour Cyril.
Bonjour Cobal.
Alors comment ça va? Alors ces vacances?
Ah ben ces vacances se sont très bien passées, je suis allé en Bretagne.
Et alors la piscine
La piscine était très chaude, hein, 28 degrés, 29, comme promis. Là.
Tu sais que tu es probablement le seul à avoir eu de l'eau chaude en Bretagne à cette période de l'année.
C'est possible, mais bon, j'en ai bien profité.
Bon, alors, ce mois-ci, Cyril, donc, nous avons... Enfin, tu as beaucoup travaillé ce mois-ci, et moi, ce mois-ci, c'est moi qui n'ai rien foutu.
Ben oui, parce que la première semaine, il n'a pas fait super beau, en fait, en Bretagne, quand j'y suis allé. Du coup, j'ai pu lire un petit peu...
Tu nous parleras de Metal Adventure, entre autres.
Oui.
Bon, mais alors d'abord, faisons les choses dans l'ordre.
Non, voilà.
Alors, donc, le sommaire de l'émission, nous aurons tout d'abord quelques petites news. Puis, donc, tu nous parleras de Metal Adventures. Ensuite, je vous parlerai du colis que j'ai reçu il y a peu contenant Do Pilgrims of the Flying Temple. T'as vu un peu l'accent comme j'ai travaillé?
Ah oui, c'est superbe, j'adore.
Et enfin, Barbarians of Lemuria, que tu as lu pour nous. Donc, alors, eh bien, passons tout de suite aux news. Alors, dans les news ce mois-ci, donc j'ai lu cette semaine le fixe. Je sais, il me semble que j'en ai déjà parlé une fois un peu avant. Tu sais, c'est cette petite newsletter qui est très pratique pour moi et qui m'évite d'avoir à travailler, c'est-à-dire qui résume l'essentiel des nouvelles concernant le monde du jeu de rôle. Et donc, dans cette newsletter, j'ai retenu deux choses importantes. Tout d'abord, il y a la boîte à eux, disons que tu sais, cette petite maison d'édition qui s'est montée il n'y a pas longtemps. Donc, il y a fait le Sweet Agatha.
Oui, voilà, je cherchais le nom.
Et donc, elle va sortir deux jeux qui vont sortir fin août. Donc, il y aura probablement moyen d'en tester un ou l'autre pour le mois de septembre. Donc, le premier s'appelle On Mighty Fuse. Alors là, franchement, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. T-H-E-W-S. Fuse,
oui.
D'accord.
C'est bien quoi, Fuse?
Pas la moindre idée.
En fait, c'est un jeu de mots sur Almighty Few. Et puis, Few, mais c'est pas quand on gèle ou un truc du style, non?
Quand quoi, pardon?
Quand on gèle, non, il n'y a pas une histoire comme ça.
Quand on gèle.
Mais sinon, tu sais, tu fais une petite recherche là sur.
Oui, Google, mais bon, ou... bref, on s'en fout.
Mais je pense que c'est un jeu de mots.
Toujours est-il que c'est donc un jeu de Sword and Sorcery. C'est un jeu qui a pour particularité d'être sans préparation, c'est-à-dire que tu fais l'aventure et l'univers en même temps que au fil du temps, quoi, au fur et à mesure. Donc je suppose que ça doit proposer quelques outils de création en temps réel qui peuvent être sympas. Donc voilà, je me demande ce que ça donne et je suis assez curieux. Alors le second jeu, c'est Breaking the Ice, qui permet de simuler en fait les trois premiers rendez-vous.
C'est Breaking the Ice.
Ice. Casser la glace.
Si d'accord.
Voilà. Oui. Et donc en fait c'est le début de l'histoire d'un couple en fait. Ou d'un... En tout
d'accord.
Cas, voilà. Donc ce sont deux personnes qui sentent qu'il peut se passer quelque chose. Et en fait, on joue les trois premiers rendez-vous amoureux.
Ouais.
Et en fait, il y a des... Et en fait, on doit aussi mettre des bâtons dans les roues de son propre personnage. Et ça peut donner un genre de comédie romantique, si tu veux, que malgré plein de... d'événements totalement improbables qui arrivent au héros, il finit quand même par séduire la femme qu'il aime.
D'accord, c'est un peu un jeu pour faire sa propre sitcom.
non, pas une sitcom, parce que je pense pas que. Enfin, c'est pas intéressant de rejouer avec les mêmes personnages. Je pense que c'est du one shot, mais qui permet d'avoir ce genre de relation entre les personnages et tout. Donc, je pense que ça peut être intéressant
Oui, c'est
aussi.
intriguant. En tout cas,
Ouais.
Suite Agatha était très bien. Donc,
Ouais, tout à fait.
c'était original, c'était un peu rafraîchissant. On pouvait imaginer des tas de choses.
Ouais, cette maison d'édition fait des choses assez
C'est le même
sympas.
auteur, peut-être?
Ah non, non, non,
Non?
non, pas du tout. En fait,
D'accord.
ils prennent des jeux
Ah oui.
d'origines diverses. Voilà. Donc, chacun des jeux fait une cinquantaine de pages et ça paraîtra fin août. Voilà. Sinon, Sombre est enfin sorti.
Oui, ah, mais voilà, je savais ce que j'avais oublié. Effectivement, Sombre.
Tu t'es oublié d'acheter Sombre. Ben, moi, c'est pareil, je ne l'ai pas acheté non plus parce que je ne suis pas allé en boutique. Enfin, j'espère que.
Mais je sais pas s'il est en
Je
boutique.
sais pas
Hein.
s'il est. Ah, peut-être pas
Je
du
pense
tout,
qu'il
ouais.
faut envoyer un chèque. Je crois que c'est le. Il faut d'ailleurs un chéquier pour ça. C'est
Ah
ça mon
oui.
principal
Ah
obstacle.
oui, alors voilà. Alors, j'ai une grosse critique, c'est de ne pas utiliser d'outils du XXe siècle, tout ça. Bon, du type paiement PayPal ou.
Mais bon,
Mais
on en
attends,
reparlera.
je suis pas sûr, je vais quand même vérifier, mais il me semble bien qu'il n'y a pas de. Donc, je viens de regarder sur le site et je confirme, le seul type d'envoi est par la poste, en fait, ou directement en main propre en donnant ses petits sous-sous au monsieur.
Oui, d'accord, qui se déplace sur Paris.
Oui,
Voilà,
voilà.
bah c'est.
Donc. Voilà, et donc c'est un petit peu dommage
C'est
qu'il
original, hein. Enfin, c'est pas mal le fait de pouvoir obtenir le jeu directement
Ah oui, ça par
de l'auteur
contre,
lui-même.
c'est un peu.
C'est en tant que, enfin, comment dire, même pour le, comment dire,
Pour le
bon,
contact
ouais, pour
ou.
le contact
Ouais,
et
bien
un
sûr.
peu le côté marketing aussi,
Ouais,
c'est-à-dire que les
ouais.
premiers acheteurs d'un produit sont toujours les fans d'avance, enfin les convaincus, ceux qui
Ouais,
connaissent un petit peu le travail de
oui, c'est
l'auteur,
vrai,
etc.
c'est vrai.
Et c'est quelque part une récompense pour eux aussi,
Alors,
peut-être.
effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est super sympa de faire ça de la main à la main et tout. Cependant, pour les gens qui habitent loin, et c'est chiant les chèques et les trucs.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est
Un
pas.
PayPal, c'était
Ça
pas la fin du monde.
fait pas très 2011.
Mais
Mais.
cela dit, effectivement, quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de lui acheter directement, je m'étais dit, ah ben c'est l'occasion d'aller boire une bière.
Eh ben, tu sais
Chose
quoi, peut-être
que je n'ai pas encore fait,
on
mais
pourrait acheter chacun le nôtre en même temps.
Ah ouais,
Ça pourrait
d'accord.
être une idée, et puis comme ça on.
Et
Et même, on pourrait faire une technique consistant à l'inviter au prochain Radio Rollist. Ah non, mais tu l'as déjà interviewé. Ah, flûte. Ah,
Ah
c'est
oui,
dégueu.
mais éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est il vient et il maîtrise un truc. Et je pense
Ah
qu'à deux
ouais!
joueurs, ça peut être pas
Ah
mal.
ouais,
Hein.
il nous fait une démo en direct. Et puis.
Ouais.
On essaie de voir si on peut pas appeler des gens et puis faire comme si durant le jeu on appelait des gens et puis en fait c'est des PNJ.
Oh, ça commence à devenir compliqué. On verra ça plus tard. Ensuite, tu voulais nous parler de ce que fait François Cispéo.
Oui, voilà, notre druide de protocole favori.
Golem de protocole.
Pardon, oh oui, Golem de protocole a lancé une histoire en fait interactive, une sorte d'histoire dont vous êtes le héros, de genre western fantasy. Alors moi j'avais déjà assisté à ce genre d'expérience une fois auparavant. C'était Eddie Webb, un auteur américain, qui avait fait comme ça, une sorte d'histoire interactive, exactement sur le même principe, avec, bon, lui c'était plus de l'horreur voilà, contemporaine, hein, genre de choses. Peut-être pas de l'horreur, mais du fantastique contemporain, ambiance sombre, psychotique. Et à chaque épisode, il y avait à la fin un
C'en
sondage.
est à quel épisode là?
Celui de Cispéo?
Oui, ouais.
Deuxième,
Deuxième.
ça vient de commencer.
D'accord.
Donc c'est pour ça, c'est pas mal aussi pour. C'est plutôt mieux de le prendre au début.
Oui,
Et enfin,
tout à
bref,
fait, oui.
je finis juste. Je me souviens que j'avais pas mal tripé sur donc Whitechapel, qui était ce qu'avait fait Eddie Webb. Et donc je suis assez intéressé par ce que prépare et ce qu'a commencé à faire François, parce que j'ai lu effectivement les deux premiers, j'ai répondu au sondage.
Ouais.
Donc j'ai un peu participé à orienter le déroulement de l'histoire, qui est écrit en direct, enfin quelque part. Et j'apprécie le style général, ouais, c'est assez rigolo.
Et donc le contexte
Le contexte, c'est du western fantasy. Alors.
Alors plus western que fantasy, plus fantasy.
Alors
que
bon,
western.
Ça fait un peu penser peut-être à Deadlands quand même, parce que forcément c'est la seule référence de western fantastique que je connaisse.
Vrai.
Donc on a eu par exemple dans le deuxième épisode que j'ai lu aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui, j'ai lu une séquence de Bullet Time où il y a un type qui esquive les balles, qui coupe les mains, voilà, genre de choses. Et puis, mais c'est ce qui est bien, c'est que ça, le mélange des genres, ça laisse toujours plein de possibilités. D'ailleurs, j'ai parlé juste après d'un jeu qui mélange les genres, donc on pourra explorer le concept un peu plus en avant. Donc voilà, c'était juste pour vous dire si ça vous intéresse ou si vous comprenez pas très bien ce qu'on a dit et que vous essayez de comprendre exactement en quoi ça consiste. Donc c'est juste un texte avec en dessous un sondage pour déterminer ce qui va se passer dans l'épisode suivant. Vous pouvez faire une petite recherche sur Google vite fait, parce que là on va pas vous donner l'URL. C'est Il venait d'Ivory Flats. Il venait comme un type qui vient, et Ivory comme de l'ivoire en anglais, et Flats, Flats, comme les étendues plates. Voilà. Donc on vous conseille d'aller regarder. Sinon, j'avais une autre news, peut-être.
Oui, je t'en prie.
RunQuest. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas encore le temps, mais il y a une nouvelle édition de RunQuest qui va apparaître l'année prochaine.
D'accord.
Voilà, donc ça a été annoncé. Ce sera une édition avec Glorantha. Voilà, donc c'est RunQuest plus Glorantha. Donc pour les vieux de la vieille, c'est toujours génial, quoi, de voir.
Ouais, alors parce qu'en fait, il me semble qu'il y avait eu plein de.
Ah, il y a eu plein. Je te confirme, il y a eu plein d'éditions, quoi.
Ouais, plein d'éditions, mais surtout plein de problèmes de nom, en fait, de nommage.
Ouais, mais là, visiblement, ce sera du RunQuest officiel avec du Glorantha officiel.
Tiens, si tu connais un peu cette histoire, tu pourrais la résumer, ou tu sais, pour les histoires du titre entre RunQuest.
Bah oui, alors, en fait, super vite fait. Il me semble que initialement, donc Glorantha a pour la première fois connu une existence en tant que jeu de rôle avec le jeu de rôle RunQuest. Le RunQuest, ça appartenait à.
C'était le système en fait.
Oui, c'était un système, mais un système, c'est pas, on peut pas mettre de copyright dessus. Hein, c'est juste la formulation du système, etc.
Oui.
Mais en gros, le système, le jeu, le nom RunQuest appartenait à. C'était quoi? C'était Chaosium. Je sais plus, enfin il y a très longtemps, je sais plus très bien.
Peut-être. Oui, tout à fait.
Et
puisque ça avait Glorantha, été traduit par
Glorantha, c'était Greg Stafford, donc qui est l'auteur
de cet univers.
Ensuite, Greg Stafford, dans son coin, il n'avait pas les droits pour RunQuest, mais il avait son monde et puis la volonté d'arriver à une nouvelle étape, finalement, de la vie holistique de Glorantha. Il a créé d'abord Hero Wars.
Oui.
Voilà, Hero Wars, parce qu'il ne pouvait pas avoir le nom Hero Quest, qui lui appartenait à Games Workshop, si je me souviens bien, qui avait. Déposer le nom pour un jeu de plateau à l'époque antédiluvienne. Voilà.
Et si je me souviens bien, tout au début, il était prévu que la suite de RunQuest s'appelle HeroQuest.
Oui, voilà, c'est ça.
Au moment où les personnages changeaient de statut ou quelque chose comme ça.
Oui, voilà, parce qu'en fait, il y avait un. Bon, c'est quand on en reparlera RunQuest et Wars, parce que c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur. Et donc,
mais juste retracer l'histoire éditoriale.
RunQuest, à la base, on joue des fils de fermiers qui se révoltent contre l'envahisseur lunar. C'est juste une caricature. On peut jouer des tas de choses. C'est un jeu extrêmement riche.
Bien sûr,
Et puis dans Hero Wars, Hero Quest, donc, puisque après Hero Wars, il a eu les droits à un moment pour faire son Hero Quest, donc ça a pris le nom Hero Quest. Là, on joue directement, les héros niveau 50, quelque part. Qui sont les héros au minimum du village.
Oui.
mais enfin, bon, voilà, qui sont déjà des vétérans confirmés.
Oui. Mmh.
ou en tout cas des héros balèzes. Et donc ça devient beaucoup plus héroïque avec balade dans le plan des dieux, quête héroïque, voilà.
Artefact.
Le truc. Voilà. Donc ensuite, il y a eu une nouvelle période qui a été celle de Mongoose Publishing.
Uh-huh.
Je ne sais pas où ça en est. Je dois avouer à ma grande honte que je n'ai jamais lu un de leurs bouquins de la série Run Quest, alors que j'adore Run Quest et que je trouve que par ailleurs, Mongoose Publishing a quand même eu très très grand mérite en tant qu'éditeur de jeux à plein de titres. Et,
par exemple, tu peux rappeler 2-3 trucs qu'ils font.
Déjà, ils produisent. Ils ont vraiment cette capacité de produire. Ils travaillent.
Ah oui, c'est des
bosseurs.
De créer, quoi.
Ah oui, c'est des bosseurs. Ils ont, dans un contexte difficile qui était la débâcle suite à la fin du D20 et la fin du marché du D20, etc.
Oui, uh-huh.
Ils ont eu une stratégie avec des licences, etc. En fournissant des bouquins, en créant une communauté grâce à une production régulière qui leur a permis de faire des trucs comme ça, comme RunQuest.
D'accord.
Alors, bon, je ne connais pas donc les détails de cette gamme, donc je ne vais pas y rentrer dedans, mais RunQuest de Mongoose Publishing se déroule en fait à une époque différente des autres RunQuest. Ça se déroule avant. Je sais plus, 500 ou 1000 ans avant. En gros, c'est à une époque où il y a un grand empire qui règne sur les mers, qui va ensuite disparaître de manière cataclysmique et tout.
Ouais. Et là, dans le premier RunQuest, c'est plutôt une espèce de période de décadence, non ?
Le premier RunQuest, non. C'est la période
de conquête de l'Empire lunaire.
Voilà, c'est l'Empire lunaire, donc d'inspiration romaine ou perse, qui est situé dans le nord du continent de Genertela et qui descend dans la passe du dragon, notamment dans le pays des Hortes et le royaume de Sartar, qui conquiert en fait ces zones qui sont en fait peuplées de peuplades d'inspiration celtique ou nordique. Voilà, d'où révolte, etc., face à l'envahisseur, le syndrome d'Astérix et compagnie. Et ensuite, donc Mongoose Publishing a sorti plein de trucs sur le troisième âge, deuxième âge, je ne sais plus.
Ouais.
Et là je ne sais pas exactement où va commencer... s'il va y avoir une époque de référence pour la prochaine édition, j'ai pas lu en détail en fait ce qui s'y rapportait, mais je sais que 2012, il faudra surveiller ça.
D'accord.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ?
Si tu nous parlais de l'Asmodée.
Ah oui, tout à fait. Donc il y a le retour de l'Asmodée. C'est donc Asmodée, l'éditeur, qui avait organisé il y a 7 ans un premier Asmodée qui était en gros une sorte de convention sur deux jours.
Juste pour, parce que peut-être nos auditeurs ne l'entendront pas très bien, c'est l'Asmodée D-A-Y.
Oui, voilà. Ils vont remettre le couvert donc les 17 et 18 septembre. Et apparemment, il faudra commander les places avant parce que celles-ci seront en nombre limité. Et il n'y aura que 500 places pour être cet événement. Et c'est un événement parce qu'il y a une petite news, il y a un petit scoop qui est glissé dans cette annonce, qui est la présence d'une partie géante de In Nomine Satanis Magna Veritas, 5e édition. Alors voilà, ça c'est le truc, qui fait baver dans cette nouvelle, c'est le fait qu'il y aura un INSMV5. Donc voilà, je ne pourrais pas y aller, je serais dans un
Pourquoi
avion.
Tu n'es pas un vrai fan.
Je serais dans un avion probablement. Et voilà, mais je suis curieux de savoir. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui peuvent qui ont l'intention de s'y rendre, s'ils pouvaient prendre quelques photos ou vidéos. Quelle horreur! Il y a Cyril qui est en train de me montrer cette effroyable photo de vacances.
Mais c'est superbe!
Oui, c'est des géraniums!
Mais non, c'est pas des géraniums!
Non, je sais plus comment ça s'appelle, mais.
Des hortensias.
Tu arrêtes maintenant, sinon j'appelle la police! Donc, alors maintenant.
Juste, je remonte ma tarte, la tarte que j'ai faite.
Non, je m'en fous de ta tarte. Tu sais où tu peux te la coller.
Là, tu peux voir l'artichaut.
Oui, il est bien ton artichaut. Alors, donc, je reprends.
L'Asmodée.
Donc voilà, l'Asmodée, ça vaut vraiment le coup parce que s'il y a déjà des trucs sur INS5, ça vaut le coup vraiment de voir quoi. Moi, je suis très curieux, étant donné qu'ils avaient quand même réussi à clore les 4 éditions.
Oui.
Avec le dernier supplément qui s'appelle donc On ferme. Je sais pas comment ce sera. Peut-être un retour aux sources avec le conflit
une
basique.
Une sorte de best-of peut-être.
Non, j'ai du mal à voir parce que si tu fais un best-of, en fait, ça te fait une espèce de salade de fruits, de bouts de background qui sont pas forcément compatibles entre eux, sans qu'il y ait tout quoi. Donc je sais pas, peut-être qu'il. Moi, je pencherais pour un retour aux sources.
Sachant que la campagne présidentielle ne fait que commencer, là ils ont un sujet d'actualité, non? pour faire leur.
Ouais, mais le problème, c'est que le temps de l'édition et le temps d'une présidentielle, c'est pas tout à fait les mêmes.
Ouais, je sais pas.
Puis il faut que le contenu reste intéressant même après la présidentielle.
Oui.
Ce serait un scénario, à la rigueur. Et encore, faut qu'il soit bien fait. Donc, alors, j'ai terminé pour.
Non, attends, moi, oui. Juste pour nos auditeurs, hein, si vous allez là-bas, bien sûr, il faut nous contacter. Et surtout, si vous avez un goodie bag. Allez, pensez à Cobal, quoi, parce que là, il était terrifié quand il a vu la date de l'Asmodée.
Non, mais c'est bon. Donc, alors, sinon, également, j'ai pas fait de chronique sur le sujet, mais parce que c'est, il ne s'agit pas d'un jeu, c'est. En fait, je veux parler du petit bouquin qui est édité, je crois que c'est par le 7ème cercle, je sais plus. La version française de Dirty MJ. C'est Dirty MJ en français. Je sais plus. Tu vois pas du tout ce que je veux parler.
Si, je le visualise. C'est une couverture noire, non ?
Oui, c'est ça, le petit là. Mais attends, je l'ai plus sous les. Je l'ai plus sous les yeux. Bon, bref, donc.
Utilité, je crois.
C'est, en fait, oui,
mais
voilà.
Tu en avais pas déjà parlé ?
C'est Play Dirty. Hein ?
Tu en avais pas déjà parlé ?
J'en ai déjà parlé de celui-là ?
Oui, en disant que les conseils de MJ, bah, c'était un peu. Un exercice pas toujours facile.
Non, mais non, ça c'est le guide du meneur de jeu, ça.
D'accord, oui, c'était. Mais pourtant, j'ai bien vu Dirty MJ, je crois.
Oui. Mais tu me l'as donné en fait.
C'est le bouquin que je t'avais. Non. Mais non.
Je crois. Ah non, c'est moi qui l'ai acheté.
Oui, non, c'est toi. Oui.
Putain, on dirait vraiment une discussion.
Les petits vieux.
Mais je me souviens plus où j'ai mis mes dents. Bon, il faut que j'arrête. Alors attends, regroupons-nous. Donc, oui, Dirty MJ. C'est le titre anglais. Non, le titre anglais c'est Play Dirty et c'est traduit en Dirty MJ. Oui, donc Dirty MJ a été édité par la Bibliothèque Interdite. Et je l'ai lu, il a été écrit par John Wick.
Oui.
D'accord. Donc c'est un recueil d'articles qu'il a écrit pour le magazine de Steve Jackson, c'est-à-dire Pyramide.
Oui.
Voilà. Et qui contient tout un tas de conseils OMJ pour avec des idées de donnant des façons de maîtriser un peu spéciales pour faire des one shot notamment avec beaucoup d'idées intéressantes, c'est vachement sympa. Mais cependant, je trouve que l'auteur se regarde écrire avec une certaine complaisance.
D'accord.
Donc, parfois, ça peut être un petit peu agaçant.
Ok. Je profite pour en rebondir sur le compte Twitter de Steve Jackson Games.
Ouais.
Je sais plus, c'est peut-être SG Games, mais je suis même pas sûr. Faudra faire une petite recherche pour nos éditeurs. Et de temps en temps, en fait, ils mettent un hashtag hook, H2OK.
Oui.
Pour donner des sortes d'accroches de scénarios. Et c'est souvent vraiment très très bon.
D'accord.
Ouais.
Ah, c'est pas Hook comme Laurent Houtan de Pratchett.
Non, d'accord.
Ok.
Enfin voilà, je dis juste ça. Si vous avez. Là vous avez besoin d'un petit scénario de jeu de rôle. Enfin, vous avez besoin d'une idée pour relancer votre scénario. Allez voir là parce que souvent c'est vraiment très rigolo. Du style, le dernier que j'ai vu c'était. Les personnages meurent Et il découvre que en fait l'endroit où il se trouve, c'est quand il se réveille quoi, en enfer, c'est le dernier niveau d'un donjon. Donc il faut qu'il remonte à la surface.
En commençant par le boss et en allant taper
ensuite,
des monstres de plus en plus petits. Et à la fin, quand t'es niveau 18, t'as plein de gobelins qui arrivent. Par contre, quand t'es niveau 2 et que t'arrives face à la liche, ben, t'as vraiment beaucoup de mal. Donc, alors, dernière news, qui est donc sur le forum Cassius Eno, j'ai donc lu un très long thread vachement intéressant qui parlait du grog. Donc, le grog, on va résumer en deux mots, donc c'est une énorme base de données de tous les jeux de rôle existants, enfin, ou à peu près, et puis à tous ceux qu'ils arrivent à trouver en tout cas. Avec donc il y a 10 000 fiches de jeux, 3 200 utilisateurs enregistrés et 12 000 critiques. Ça, c'est vraiment un monstre. Et en fait, il y a, donc des critiques qui ont émergé parce que quelqu'un disait dans un forum, dans un thread consacré à Cassius. Qui disait le grog a survécu à Cassius et maintenant ça risque d'être le contraire. Et donc là-dessus sont venus se greffer tout un tas de remarques en lien avec ça. Bon, il y a des dizaines et des dizaines d'interventions, mais donc en gros ce qui est reproché en général, c'est le manque de certaines fonctions de finalement de web social, de web 2.0 et tout, pour pouvoir plus soyer des articles, tu vois.
Ah oui.
Non, enfin, pas forcément, non, là je grossis le trait, mais pas forcément, mais faire des développements qui rendent effectivement le site plus ergonomique, plus,
oui.
Plus agréable à utiliser. Et donc il y a cette part technique d'une part, et il y a également une critique d'une certaine rigidité qui est ressentie par les gens qui viennent faire des fiches, parce qu'en fait le système
D'abord, il y a la description du produit et ensuite, il y a les critiques.
Et après, il y a les critiques. Et donc, cette présentation, elle se doit d'être neutre. Et le problème, ce qui est à la fois une qualité et également un défaut, c'est-à-dire c'est neutre, effectivement, il n'y a pas d'avis personnel, mais c'est chiant comme la pluie.
Oui.
Donc, c'est, je trouve que c'est utile. Et je parlerai de mon avis plus tard. On s'en fout. Donc il y a ce qu'ils appellent cette fameuse rigidité. Mais il y a un admin du grog qui est venu un peu répondre aux questions et qui disait que le grog manque de participants qui soient prêts vraiment à s'investir. Il justifiait le fait que
la règle, non ?
Il justifiait le fait que la façon de faire les fiches était volontairement un peu stricte pour éviter que le contenu soit médiocre en fait.
Oui, d'accord.
Donc
oui.
C'est pour un surcroît de qualité. C'est vrai que. Et il est vrai que c'est probablement l'un des sites de jeux de rôle les mieux tenus en termes de grammaire, de syntaxe, d'orthographe. Parce que même si on n'écrit pas trop mal, de toute façon, des coquilles, on en fait plein.
Ouais.
Et savoir qu'il y a quelqu'un quand même qui relit toutes les fiches une à une et qui corrige les fautes.
Ouais, c'est impressionnant.
Et qui s'assure effectivement de cette neutralité.
C'est énormément de travail. D'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour féliciter tous ces gens qui vont vivre ce site, parce que c'est quand même chapeau, quoi.
Oui, chapeau. C'est vraiment, c'est incontournable, quoi.
Et puis ceux qui veulent, donc visiblement, le grog recrute. Donc, faut pas hésiter à.
Oui.
Allez contacter et puis si vous avez envie de faire des fiches sur les jeux que vous aimez et qui sont peut-être pas forcément super représentés.
C'est vrai que justement, tu déconnes, mais le Le fait est que de lire ce truc, je me suis dit, tiens, et si je me sortais les doigts de là, et que je fasse une fiche ou deux, vu le nombre de bouquins que j'ai.
Et sur quoi pourrais-tu faire une fiche?
Et là, j'ai en main Cyril prend mon bouquin de Dope et Pilgrims of the Flying Temple. Mais toi, et toi, tu ne fais pas de fiche?
Eh ben non, je fais pas de fiche, désolé. Quoique j'avais... Il me semble que... Enfin non, j'avais pas... En fait, j'avais fait une fiche, je crois, il me semble, hein, je dis peut-être une bêtise, mais spontanément, en l'envoyant à Philippe, peut-être, ou ouais, un truc du style, mais c'était pas pour... c'était pas pour un jeu de rôle, c'était pour un bouquin, donc ça aidait pas. Il y a pas de roman, non.
Mais pourquoi t'as fait ça?
Bah parce que, attends,
pour le mettre sur son site, Ugame.
Non, je sais plus, je crois que c'était parce que.
Pub gratuit.
Non, parce que voilà, j'avais fait une critique d'un bouquin de nouvelles dans l'univers de Glorantha sur mon blog.
Ouais.
Et puis je me dis, ah bah tiens, peut-être qu'un jour ils feront une rubrique sur les livres inspirés de jeux de rôle.
Alors justement, il parlait, j'ai lu ça dans un thread, quelqu'un qui disait que l'idée avait été proposée, mais il y a super longtemps. Et il y a l'admin, je crois que c'est Brunel qui disait qu'il y a que 2 ou 3 personnes qui font du développement en fait.
D'accord.
Et vu la masse, vu le machin, ouais. C'est comme d'avoir un éléphant gros comme un immeuble et seulement 2 cornacs, tu vois, c'est dur.
Ouais, c'est pas évident.
Donc voilà.
Surtout
voilà,
si c'est des elfes et des Rohirrim qui arrivent.
Des Rohirrim. Un olifant, tu veux dire? Ouais, donc c'est le pour moi ce que j'en pense, c'est il y a Antoine Bugley qui donnait un exemple. Lui, il avait rédigé une fiche qui est celle de World of Cinnabar, qui est probablement l'un des plus mauvais jeux de rôle existants. Je rêverais de l'avoir. En fait, il a pas pu s'empêcher de faire une fiche avec une toute petite pointe d'humour, si tu veux. Et en fait, ça serait pas passé au filtre actuel du grog, si tu veux. En fait, ça date d'une autre époque.
Mais est-ce que, du coup, parce qu'en fait, quand, enfin, t'as envie de donner ton opinion, c'est normal.
Ouais.
Du coup,
ouais.
est-ce que il est pas possible éventuellement de
Ah bah, tu peux parfaitement coupler le fait de faire une fiche et après de poster une critique en rapport
pas,
avec le
pas
même
faire
jeu.
Une fiche relativement petite, j'en sais rien, peut-être pas très très détaillée, mais après faire effectivement une grosse critique derrière.
Oui, bien sûr. Mais je trouve au niveau ergonomique, les critiques sont pas mises en valeur en fait là. L'affichage est pas terrible, mais c'est vrai que s'ils sont que 3 à coder, ben ils peuvent pas.
Ouais.
au bout d'un et moment, puis, ils sont limités, quoi.
C'est, oui, c'est vrai que c'est. Comment dire, il y a peut-être la page d'accueil aussi qui joue la façon dont ça se présente et tout. Est-ce que tu tombes pas directement sur l'affiche du jour qui est mise sur...
Non, ça j'aimerais pas. En revanche, oui, il est vrai que je préférais l'époque où il était possible de lire l'éditorial d'un coup plutôt que d'avoir à cliquer dessus. C'est con, hein, mais je pense que ça pourrait jouer plus sur
je sens que tu as envie d'aller les voir et de leur proposer ton aide pour une refonte du site.
Non, absolument pas, je n'en ai absolument pas les capacités.
Mais ceci dit, les sites web, surtout les portails comme ça et tout, on peut pas couper à... Enfin, il faut tous les quelques années, il faut... Enfin, c'est malheureux à dire, mais sinon, ça dépérit, quoi. Il faut faire une espèce de remise à jour.
De maintenance de fond, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est difficile de demander à des gens qui donnent,
tout à fait,
donnent déjà énormément, et en général, c'est à eux qu'on demande, parce qu'on sait qu'ils le font. Donc, oui, voilà, quoi. Donc, il faut que des gens s'investissent là-dedans. Je pense que je vais essayer quand même de faire au moins 1 ou 2 fiches si j'y arrive, malgré ma flemme. Et voilà, donc, vous autres auditeurs, si ça vous dit de faire une fiche ou deux, vous serez probablement les bienvenus. Vous êtes sûrement les bienvenus au grog. Voilà. Donc, eh bien, écoute, je pense que j'en ai enfin terminé avec les news. Hein. J'ai
T'es
été
sûr
très long.
Parce qu'il me semble qu'il y avait une dernière news.
Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, j'allais oublier. C'est une espèce d'acte manqué. Alors, tu sais, c'est parfois lorsqu'on est traumatisé par quelque chose d'affreux, comme affronter un tueur en série ou voir tes photos de vacances, par exemple.
T'exagères.
On a besoin de se confier, de partager avec d'autres l'étendue de tout ce que l'on a ressenti. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que je vous fasse partager le fait que j'ai écouté un podcast. Ah non, arrête! Il est en train de me montrer ses photos de
C'est en fait
vacances.
une sculpture de menhir.
Mais on dirait vraiment une bite.
Non, non, mais c'est
J'étais
contemporain,
sûr.
c'est pas mégalithique. Et puis en dessous, y a un symbole, enfin, c'est symbolique des
Oui, mais
racines.
on s'en branle. Enfin, pardon.
D'accord.
Oh, on va passer en explicite lyrics. Oui, donc je voulais parler d'un podcast que j'ai écouté qui est absolument. Il n'y a pas de mots, je pense que.
Je me shit dessus.
Ouais, en quelque sorte. C'est de la merde, c'est ça. Non, non, c'est absolument génial. Moi, j'adore. Ça s'appelle L'apéro du capitaine. Les émissions peuvent durer jusqu'à 5 heures. Donc, il faut vraiment être accroché. Donc, c'est une bande de joyeuderie dont comment dire, l'espèce de fil rouge officiel, c'est censé être des news high-tech. Mais ça finit rapidement avec des poneys, de la poire également. Voilà, c'est absolument monstrueux. Je mettrai le lien afin que un maximum de monde puisse profiter de cette horreur. Voilà, j'en ai fini. Allez, eh bien, donc, Cyril, c'est à toi et tu vas nous parler de Metal Adventures.
Alors, je vais vous parler de Metal Adventure. Donc, c'est un jeu de rôle d'Arnaud Cuidet, donc, qui n'est pas inconnu au bataillon.
Oui, tout à fait. Oui. Donc, il a été. Il était rédac chef de. Qui c'est qui était rédac chef de Cassius?
Je
Il n'y a
sais pas s'il
pas
était
aussi.
rédac chef,
En tout cas, il était
mais
dans la
il était
rédaction.
vraiment dans l'équipe
Dans l'équipe
rédactionnelle. Et puis,
qui faisait le machin.
il a bossé pour Multisim, je crois, pas mal de temps.
Ah oui, il a fait plein de trucs,
Voilà.
pour,
Bref,
je
donc c'est
crois.
un nom
Oui,
qu'on
ça
reconnaît
fait très
bien.
longtemps
Voilà.
que nous le voyons errer dans les conventions où nous nous trouvons aussi, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, Arnaud
C'est son premier jeu, je
a
crois.
publié, je ne sais pas, mais je
Il
pense
me
que
semble que
oui.
ça c'est sa première
Ouais, donc, il
création.
a publié aux éditions du Matago le jeu de rôle Metal Adventure, les éditions du Matago qui prouvent ainsi leur diversité, puisque elles se sont fait notamment connaître par un jeu
Avec
sur les
TDO.
pirates.
Et ah non, les pirates, c'est Black Book.
Ah oui,
Ah,
merde. Ah oui,
promis,
dans
je
cette
te
TDOOM, oui, t'as raison.
jure. C'est TDM pour un massacre.
Oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et donc voilà, dans le cadre de leur grand programme noble du XVIe siècle et pirate, les éditions du Matago sont passées à la seconde partie de leur maître plan, qui est de faire un jeu de rôle sur les pirates.
Oui,
Voilà, bref.
d'accord. D'où le rapport avec les pirates du début.
Oui, non, parce que pourquoi je pensais que c'était eux qui avaient fait Pavillon Noir? Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que nous avons un nouveau jeu de pirates, et donc c'est très sympathique, mais ce n'est pas n'importe quel type de pirate, hein, ce sont les pirates de Cobra, les pirates de l'espace. J'ai cité Cobra, mais on aurait pu citer plein de trucs, hein. Ça s'inspire aussi d'Albator, enfin, c'est tout
Bah
l'imaginaire.
c'est clairement cette
Voilà.
inspiration-là, vu la
Rien que quand
nature
on regarde
des
la
illustrations.
couverture du manuel des joueurs, bon, bah, on a l'impression de voir un petit peu un cousin du bateau d'Albator. Tu te souviens
Bah,
du nom du vaisseau d'Albator?
du vaisseau d'Albator,
Non,
j'étais pas
je
très
viens
fan.
pas.
Moi, j'avais peur des espèces de sylvides là.
Ah
C'était
oui, c'était
là-dedans.
juste
Et quand
après.
elle mourait, elle faisait un cri. Moi,
Ouais.
ça me mettait mal à l'aise,
Ouais.
je regardais
Et bientôt, on
pas.
va parler des cosmos plantes aussi.
Des cosmos.
Non, des monstres
Hein?
plantes.
Des monstres
Des
plantes?
monstres plantes, Jess. Tu te souviens
Oui,
pas?
si, je, si, si,
Mais
sur les
là,
cosmos.
voilà,
Ah,
bref.
il y a pourquoi il y a des véhicules comme ça
Non,
dans
non, non,
Metal
non, mais
Adventures?
parce que c'est le vidre. Enfin, bref, là, on s'éloigne.
Ah, d'accord. Non, c'est juste le cri, moi, le
I.
Oui, voilà.
Ok. Donc sur la couverture, là, on voit il y a une superbe nana. Je sais pas, une espèce de borgne taille avec des piercings,
Je
des
trouve que ça
tatouages.
fait très film de SF des années 80.
Oui, bah, il y a un côté définitivement rétro, hein,
Ouais.
c'est clair. Mais enfin, c'est du space opéra, c'est pas du
C'est du
art
rétro
science.
space opéra en fait.
Et il y a un côté effectivement. Mais je pense que d'une manière générale, le space opéra se définit de plus en plus comme un genre parodique ou pour enfants.
Ouais, c'est vrai qu'en fait, on le voit par le prisme d'un film ou d'une série. Ou de... Par exemple, Final Frontier, c'était par le biais d'une série. Ça tournerait peut-être plus vers les dessins.
Si on devait, moi, la série associant une période historique de la Terre et l'espace, c'était que j'ai vu, c'était Firefly.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Donc là, c'était les cow-boys dans l'espace.
J'ai pas lu le jeu, en fait, j'ai pas eu le temps. Et je connais pas le background du tout.
Donc de Metal Adventure.
Ouais, ouais.
En gros, c'est un âge un petit peu sombre.
Ouais.
Les grandes nations sont un petit peu engagées dans des grands conflits entre elles. Il y a de la violence un peu partout, de la guerre. Et finalement, le seul espace, le dernier espace de liberté, de vraie liberté, où les gens peuvent vraiment vivre leur vie comme ils l'entendent, c'est la piraterie. Ce sont les pirates. Mmh. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que, on parlait de rétro, mais en fait, c'est des pirates qui boivent du rhum et portent des bandeaux noirs, ont des mains coupées avec des crochets, portent tout l'attirail traditionnel du pirate. C'est vraiment une transposition du pirate dans l'espace.
Tel quel, quasiment.
Y compris même leur base s'appelle Havana. Enfin, donc c'est,
D'accord.
Voilà, les noms semblent sortis de...
Et Tortuga
je me souviens plus. Oui, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il y a plein de références à notre géographie.
Ouais.
Donc, en gros, bref, c'est un futur qui est quand même pas très compliqué. C'est un futur de space opéra avec des méchants, des gentils. C'est pas si gris que ça, quoi. C'est pas tous méchants. Il y a d'un côté les méchants pirates, de l'autre les gentils pirates, et puis enfin les futurs proies et les
et ceux qui
les garnisons. Les garnisons, voilà. Et la
fille du gouverneur.
Exactement, il va y avoir la fille du gouverneur, il va y avoir tous les grands classiques, le trésor, la carte au trésor.
Avec le météorite perdu au milieu de.
Voilà, avec un petit peu. On peut imaginer tout ce qu'on veut, la jungle, tous les grands classiques, tous les grands poncifs hollywoodiens, parce que c'est des pirates hollywoodiens, ce n'est pas des pirates réels, c'est des pirates hollywoodiens.
Oui, tout à fait. Ouais.
On pourra les retrouver, quoi. Quand quelqu'un violente un captif, quand un pirate violente un captif, la loi c'est il n'est pas jeté au requin, mais il est passé par le sas, ce genre de choses, quoi. Donc il y a une transposition, donc c'est super facile pour rentrer dans le jeu parce qu'on a tous vu un film de pirate hollywoodien, on connaît tous ce que c'est. Donc
et là, on commence à en avoir un certain nombre de numéros.
Oui. Alors, il n'y a pas de mort-vivant dans celui-là, a priori. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il y a bien
d'hommes pieuvres.
En fait, il y a des mutants, il y a des extraterrestres. Voilà, il y a des gentils mutants, des gentils extraterrestres, des méchants mutants, des méchants extraterrestres. Voilà. Ce qu'on peut retenir déjà, là, je parle juste du début de la gamme, les deux bouquins qui permettent d'y jouer quelque part. Il y a d'une part le manuel des joueurs et d'autre part le guide du maître. Donc, faut compter quand même un peu moins de 45 € pour le manuel des joueurs et un peu moins de 43 € pour le guide du maître. Donc c'est bon, voilà, c'est des gros bouquins, hein. Et puis on a l'impression d'en avoir un petit peu pour son argent quand même. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est amusant parce que le manuel des joueurs, guide du maître, ça pose bien le genre, en fait. Ça veut dire que c'est du donjon, c'est pas un jeu de rôle prise de tête. C'est complètement irréaliste, ça présente pas être une simulation.
Il y a du sang et des explosions dans l'espace.
Il y a certainement du sang et des explosions dans l'espace. C'est un jeu de rôle pas prise de tête, fait pour être joué. Je vais vite fait aborder les règles. Comme dans tout jeu de rôle, il y a un ensemble de règles simulationnistes qui peuvent être semblables à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et puis, est-ce qui fait un petit peu l'originalité du jeu. Alors, les règles simulationnistes, bon, vite fait, c'est les compétences, les attributs, c'est autant de dés à 6 faces qu'il y a de points. On lance les dés, on a une chance sur deux de réussir avec les dés. Et la difficulté indique le nombre de points qu'il faut scorer pour pouvoir réussir l'action. Imaginons que j'ai 5 de ma compétence, plus attribut, je lance 5D6, tous les résultats 4 ou plus sont comptés, et si je fais par exemple, si la difficulté est de 2 et que je fais au moins 2D à 4 ou plus, j'ai réussi. Enfin, je ne sais pas si tu as suivi, mais bon, c'est très simple. Hein, voilà, ensuite, il y a plein de règles. C'est un jeu qui permet de faire pas mal de choses. Il y a beaucoup de compétences, beaucoup de gadgets, de trucs. Enfin, voilà, il a pensé un peu à tout, j'ai l'impression.
Il y a pas mal de matos à viander avec des trucs explosifs dans tous les sens.
Oui,
c'est le côté sabres d'abordage et trucs laser de l'autre côté.
Il y a beaucoup de jouets, je pense.
Ouais, ouais, d'accord, voilà. Ok.
Voilà,
oui, on est lâché dans un grand magasin de vêtements de pirates et de flingues à la con. Et hop.
Voilà, donc, et ensuite, pour la spécificité du système. Il y a, je pense, quand même deux grands trucs qui se dégagent. D'une part, le panache, et d'autre part, le metal factor. Alors, le panache, c'est comme les points d'héroïsme, bidule truc, etc., dans plein d'autres jeux. Mais il y a quand même une petite règle qu'il faut garder en tête, et des modes d'utilisation. C'est-à-dire que ce sont des points qui vont permettre de faciliter un peu la vie du joueur ou pas, mais en tout cas qui vont lui permettre d'être un héros avec plein de panaches, avec flamboyant. Ça va pas être le pirate discretos, il te snipe de loin et ensuite il vient dépouiller son corps. Non, c'est voilà, il va faire une entrée magistrale, il va se suspendre un chandelier puis faire un truc absolument extraordinaire. Enfin, il faut que ça
avec des alexandrins ou pas.
Voilà, donc il y a le panache d'une part, et d'autre part il y a le metal factor. Alors le metal factor, c'est un petit peu plus original encore. En fait, c'est un ensemble de dés. Donc, si je dis pas de conneries, c'est. Genre, t'as 50 dés. Maximum 50.
50 dés ?
Je sais plus comment ça. Non, c'est autre chose. C'est différent. À un moment, les joueurs peuvent décider d'utiliser une réserve commune au groupe,
ouais.
De dés qui leur permettent de rajouter des dés, en fait, à leur jet. Donc, s'ils ont vraiment besoin de réussir un jet, ils pourront le faire.
Oui, mais pas 50 d'un coup, je suppose.
je ne sais plus, la limite est pas. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, ils peuvent en rajouter plusieurs. Donc, c'est quand même assez important.
Mais est-ce que c'est un pool de dés, où tu dépenses définitivement les trucs, ou c'est un truc que tu regagnes ?
Non. En fait, ce qui se passe, c'est que en dépensant ces dés, ils les font gagner au maître de jeu, qui lui pourra les utiliser.
Ah, c'est un peu façon DK où où tu mets des dés de crasse et tu les mets dans un bol au milieu, et les joueurs après ont le droit de les prendre.
Bah oui, alors mais ce serait plutôt dans l'autre sens, tu vois.
Ouais,
c'est plutôt
ouais,
les joueurs qui prennent l'initiative d'abord, et ensuite c'est le maître de jeu qui a cédé.
Ouais, ok.
En plus, le maître de jeu, en fait, ça reflète aussi un petit peu le niveau de violence général. Donc plus il y a, parce qu'en fait le maître de jeu peut l'utiliser pour donner des avantages à ses PNJ. Donc
plus c'est violent, plus c'est héroïque, plus elles ont de chances de s'en tirer finalement.
Voilà, il y a un certain prix à payer, et c'est marrant, il faut qu'ils essayent de ne pas être trop gourmands, sinon ils donnent des cartes au MJ qui n'est pas forcément qui ne travaille pas pour eux. Hein. Le but du MJ, c'est de tuer tout le monde.
Évidemment, c'est une évidence.
Voilà. Juste un dernier truc pour conclure. Moi, j'ai apprécié de feuilleter ça. C'est assez complet. Hein. C'est quand même...
Mais justement, dans le système, je voulais savoir s'il y a des outils
Oui, pour de bataille spatiale. Oui, tout à fait.
de bataille spatiale. Non, mais des outils de narration, des trucs comme ça.
Non, mais on n'est pas dans un de tes jeux narrativistes.
à la con et tout.
Bon, s'il d'accord. S'il te plaît, laisse-nous nos dés à 6 faces et retourne...
et retourne jouer. Mais le simple fait... Le simple fait de pouvoir s'échanger des dés ou des trucs comme ça, c'est un plus, quoi. C'est un outil, quoi.
Oui,
c'est
tout à fait.
C'est un peu de ça que je voulais parler.
Et d'ailleurs, dans le cadre du scénario, il y a des moments où le MJ va recevoir des dés de Metal Factor. Voilà, parce que c'est un moment du scénario où il aura le droit d'être plus méchant, quoi, ou de mettre plus de pression. Et cette réserve sera toujours visible des joueurs qui pourront donc voir
à quel degré.
Putain, pourquoi il vient de se rajouter 10 dés là. Enfin, je sais pas, mais.
D'accord, ok. J'imaginais une foule de joueurs de donjons qui me jettent des dévins en disant « Bouh, fil narrativiste, va te cacher !»
Vite fait, tiens, je vais vous citer les classes de personnages en quelque sorte qui sont présentées dans le premier bouquin, le manuel des joueurs. Canonnier, bon déjà tu peux imaginer, tu peux manipuler de très gros, grosses pièces
d'artillerie, très gros canons,
voilà,
oui,
qui font beaucoup de bruit. Elle, c'est Doctor. Voilà, donc lui c'est le séducteur du groupe. C'est dans le Assurance Tourisme que c'est, comment il s'appelle le séducteur.
Ah, Futé.
Futé, voilà, c'est Futé.
D'accord.
C'est le Futé de la bande. Et le fusilier de l'espace.
Ouais.
Space Marine.
Un bourrin, quoi.
Mmh, ouais. L'historien. Donc ça, voilà, Natolo.
Un peu comme dans Firefly, l'espèce
oui,
de.
Oui, pour faire un peu le CSPO, tu vois. Mmh. Je pense.
Ah oui, oui, d'accord. Oui.
L'ingénieur.
Bonjour, j'ai beaucoup de connaissances, mais je ne sais rien faire d'autre.
L'ingénieur, donc ça, c'est le Tekos. Hein. On l'aime pas, mais on le prend quand même dans le vaisseau parce qu'on a besoin de. Le navigateur, et donc lui c'est le pilote et tout, voilà.
Le capitaine, quoi.
Ouais. Et voilà, donc ça c'était les classes de départ. Donc, mais tous pirates d'un même équipage, potes jusqu'à la mort, etc. Donc ça va pas être un jeu où on va se tirer
dans les pattes.
Ouais. Ça va plutôt être sur le mode de la coopération et de l'aventure, une aventure épique.
Moi je suis pas contre du tout les jeux qui te plongent en fait tout de suite dans dans un cadre où les personnages sont unis. C'est simplement faut que ce soit crédible et là c'est le cas.
c'est crédible. Bon, c'est crédible si vous pensez que les pirates de l'espace du futur peuvent boire du rhum et.
Non mais.
C'est
en fait dans le comment dire.
Mais le but, c'est pas la crédibilité de toute façon.
Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est crédible par
mais
rapport
en tout cas,
à l'univers.
C'est cohérent. L'univers est cohérent.
Ouais. Voilà. Ouais.
C'est cohérent. Alors juste pour conclure, en tout cas, il y aura plusieurs choses à dire peut-être. Mais bon, déjà, il y a une campagne une grande campagne de pirates. Chaque bouquin, il y a eu plusieurs suppléments. Contient un épisode de la campagne qui s'appelle comment d'ailleurs, Barco del Sol, si je me souviens bien. Ouais, El Barco del Sol. Donc qui est en fait je vais pas en parler du tout, mais c'est un thème de pirate un peu classique. Et puis après il y a un background, une histoire qui progresse au niveau galactique avec des événements assez importants pour l'espace, et donc les pirates sont amenés à devenir des héros en fait. C'est pas seulement des brutes assoiffés de richesse, ce sont aussi des héros, des derniers hommes libres quelque part, donc c'est assez exaltant. Et puis selon votre psychologie ou ce que vous avez envie de jouer, vous pourrez vous axer plus sur le côté pirate méchant qui aime piller et violer, ou alors sur le côté gentil pirate indépendant, mais bien que l'inclinaison soit plutôt vers le gentil pirate indépendant. Ça m'a fait penser. En fait, je joue à un jeu de rôle en ligne qui s'appelle Eve Online, donc un jeu de rôle science-fiction. Peut-être vous aurez l'occasion.
Tu trouves la moindre occasion est bonne.
Non, mais pourquoi j'en parle ? C'est parce que donc là, j'ai des amis qui s'y sont mis un petit peu et ils trippent sur l'idée de jouer des pirates. Dans Eve Online, tout est plus compliqué. Rien ne s'improvise entièrement, quoi. Ça demande un petit peu de réflexion. Sinon, le réveil est très cruel et on se fait
laminer.
On se fait tuer. Oui. Enfin, votre personnage meurt, votre vaisseau est détruit et vous retrouvez à la station de départ quelque part. C'est assez cruel. Là, c'est pas du tout l'optique de ce jeu.
C'est bien ce qui m'avait semblé comprendre.
Vous pouvez jouer des pirates de l'espace et vous amuser. Ça va être fun. C'est un jeu, je pense, de vacances. Le but.
Quand on en avait discuté, t'as dit un truc qui résume bien le truc. C'est un jeu qui est fait pour y jouer, pas pour le lire.
Oui, mais c'est ça en fait. Ouais.
Ouais. Ok, ouais. D'accord. Bon, écoute, merci Cyril. T'as fini, t'as bien fini sur le sujet, ouais.
Oui.
Ouais, oui. Ok.
On pourrait toujours dire tas de trucs. Hein. Moi, je trouve ça plutôt bien illustré. Enfin, ouais, même carrément bien.
Ouais.
Bon, c'est écrit. Bon, ensuite, il y a des goûts, des couleurs. Je sais que moi, comment dire, l'espèce opéra, c'est pas mon genre préféré. Je suis plutôt art science.
Ouais.
Mais voilà, comment dire, si ce que vous cherchez c'est du space opéra, vous allez être servi. C'est il y en a tout plein.
Ok, très bien.
Donc, Star Wars, Firefly, ouais. Ah oui, Firefly, des jeux épiques, quoi. Enfin, des histoires épiques, ça c'est.
Et il y avait, tu sais, le jeu édité par Multisim, aussi un jeu de space opéra un peu comme ça, cap et d'épée. Attends, comment ça s'appelle déjà? Fading Sun. Qui avait un peu ce côté de cap et d'épée, dans le sens où les dégâts des armes étaient.
Fading Sun, c'est plus sombre et plus.
Plus sombre, pas tellement, je trouve pas.
Ah, enfin, si, quand même.
Ouais, mais c'était vraiment aussi un jeu d'aventure qui était conçu pour.
C'est pas du tout les mêmes références, Fading Sun.
Ouais, bien sûr.
C'est plus proche de trucs comme Dune ou il y a un côté moins débridé, moins il y a pas le panache
c'est moins aventureux, c'est vrai, mais je trouve qu'au niveau des règles par exemple de combat, c'est fait en sorte que les dégâts des armes ne soient pas finalement suffisants, que le mieux ce soit de se battre à l'épée, tu vois.
Oui, effectivement. C'est le côté rétro, enfin le
voilà,
côté.
Voilà, le côté comme, je sais pas, genre un mousquetaire qui a un pistolet à deux coups et un flingue, c'est un peu ce trip-là. C'est pour ça que ça m'y faisait penser.
Bah là, il y a des pistolets laser, mais on peut aussi en brocher avec un bon vieux sabre.
D'accord, très bien, ok. Mais merci Cyril, ça va être à moi et je vais vous parler de Do Pilgrims of the Flying Temple. Alors Cyril, je vais te parler de la merveilleuse acquisition que j'ai faite, qui est donc Do Pilgrims of the Flying Temple. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce jeu est issu d'un principe d'enchère dont on a déjà parlé ici. Mais là, c'est un principe un petit peu différent. Donc je sais pas si tu connais donc le site Kickstarter.
Oui.
Donc c'est un site où des gens présentent des projets qui peuvent être des trucs complètement en dehors du jeu de rôle. Il y a des ONG, il y a des gens qui veulent construire des trucs ou qui veulent.
Il y avait un dossier très intéressant dans Wired il y a quelques mois justement
sur Kickstarter. Ouais. D'accord. Et si tu connais un lien sur le sujet et tout, moi ça peut m'intéresser, je veux bien voir ça. Mais on mettra sur le site si jamais tu le trouves. Le principe de la chose est simple, donc quelqu'un vient avec un projet qu'il décrit et il demande, il dit de quelle somme il a besoin pour aboutir à la création de ce projet. Et là, en l'espèce, le projet était donc l'édition de ce jeu, qui est plutôt un story game qu'un jeu de rôle, mais on y reviendra. Donc, il souhaitait avoir 4 000 $ pour sortir ce jeu, et il a récolté 24 383 $. Donc, il y avait plusieurs échelles de dons permettant la création de ce jeu. 1 $, 5 $, 10 $, 20 $, 30, 40, 100, 250 et 1000. chacune de ces versions.
Je me permets d'attendre. C'est super intéressant parce que un des défauts de plein d'industries, c'est de ne pas répondre finalement aux besoins en divertissement, à la capacité de dépenser de l'argent des riches et à leurs besoins en loisirs. À part les jeux d'argent, il y a pas grand chose. Et c'est bien qu'il y ait de plus en plus de trucs qui permettent de prendre le pognon des riches pour les donner aux pauvres auteurs de jeux.
D'un autre côté, ils sont pas volés sur la marchandise parce que donc il y a des
ils ont des bénéfices supplémentaires.
J'ai vu des photos qui ont été donc postées par Daniel Solis, l'auteur du jeu, et qui montre l'exemplaire qui correspond aux 1 000 $. Et donc ce qui est marrant, c'est qu'il a donné à chaque type de don un titre. Par exemple, ceux à 100$, c'est Venerable and Wise Transcendent Master. Pour 250 et plus, c'est Twin Dragons of the Cosmos. Et 1000$, c'est The Reverend Keeper of the Exalted Tome. Et alors, est-ce que j'ai bien prononcé ? Est-ce que tu me fais chier à chaque fois
C'est toi qui te dis des trucs. Moi, je suis nul en anglais. Hein. En tout cas, pour le parler...
Menteur.
Pour le parler, je suis...
Et donc, dans cette version à 1000$, c'est un livre qui est entièrement customisé et fabriqué par un artiste du nom de Dan Settorelli. Et donc j'ai vu quelques dessins, j'ai vu une couverture qu'il a fait pour un jeu, pour un autre client d'un autre jeu. Je me souviens plus du nom, c'était un jeu steampunk je crois. Et en fait il avait fait une première couverture qui était en fait avec des montants métalliques et avec des engrenages, des trucs un peu rouillés et tout, magnifique. Et en dessous une couverture de cuir. Et donc apparemment c'est quelque chose d'un peu dans ce goût-là. Il me semble que la couverture pour ce volume, c'est une couverture qui est gravée et sur laquelle il y a l'une des lettres que l'on retrouve à l'intérieur du bouquin.
Et donc là nous manipulons ton exemplaire, il est en peau humaine, c'est bien ça, non?
Alors non, pas du tout. Moi, comme je suis pauvre, j'ai commandé un exemplaire basique.
C'est quoi le titre pour l'exemplaire basique?
Alors, l'exemplaire basique...
Pauvre balayeur de la cour du temple
Non, je suis Pilgrim of the Flying Temple, tout simplement, voilà. En toute simplicité. Et en fait, j'ai mis un peu plus pour avoir un exemplaire hardcover, parce qu'il est également possible, enfin non pas d'avoir de softcover, mais d'acheter simplement le supplément PDF. Et donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir en dur, je sais pas s'il en a encore. Il est possible de l'acheter en PDF sur RapidJDR, tu sais, l'interface de commerce en ligne pour les jeux de rôle. C'est 6,50€, un truc comme ça. Donc c'est pas cher. Et c'est un bouquin qui est plutôt sympa. Alors, je vais te parler un petit peu de tout d'abord du contenant de mon exemplaire à moi qui n'est pas relié en peau humaine. Donc, c'est du hardcover format carré, plus petit que Nobilis, un peu plus petit. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, couverture et intérieur en quadrichromie. C'est des dessins qui sont très mignons en fait. Ils ont un côté, ils ont vraiment un côté Disney, je trouve. Hein. Un côté de dessin fait pour des dessins animés de ce type-là, quoi. Et sur la couverture, on voit donc une femme accrochée à un coup de dragon. Et c'est un espèce de dragon asiatique avec plein de une espèce de crinière de fauve
avec
derrière.
Avec des moustaches et des...
Oui, avec des grandes moustaches.
Moustaches à la Fu Manchu.
Ouais, exactement. Donc l'univers, comme je crois l'avoir déjà dit quand j'ai vaguement parlé du jeu, c'est ce qu'ils appellent du wind punk. C'est du punk avant. C'est-à-dire que c'est un univers qui, comme dans le dessin animé que tu n'as pas vu, qui s'appelle Chasseur de Dragons, ou comme dans Le Petit Prince, tu as des espèces de d'îles planètes en fait qui volent les unes en fonction des autres. Donc ces planètes peuvent être toutes petites, c'est-à-dire que tu peux avoir une maison. Et un petit jardin, et c'est tout. Et il n'y a rien de plus qui tient sur ce bout de terrain. Donc, tu peux. Il peut y avoir des planètes à peu près de n'importe quelle taille. C'est-à-dire, tu peux très bien te retrouver sur un truc de la taille de la Terre, c'est-à-dire vraiment immense. Il y a également un truc, c'est qu'il n'y a pas de vide dans l'espace, c'est de l'air partout. Voilà. Ok. Et d'autre part, la gravité est assez faiblarde. C'est-à-dire que si tu es plus de 5 minutes dans les airs, en gros, tu peux te diriger en nageant vers n'importe quelle direction.
D'accord.
Et aller sur un monde. Par contre, une fois que t'es dessus, tu peux plus en décoller.
Oui.
Voilà. Donc les gens, ils utilisent des ballons, il y a des navires à voile qui traversent donc des espèces de courants marins. Tu as tous les animaux marins se sont habitués à cet environnement et donc tu as des bancs de sardines, et également des espèces de mastodontes spatiaux, voilà, espèces de grosses baleines. Et dans cet univers, il y a donc le temple volant, le Flying Temple, dont ton personnage fait partie. En fait, les Pilgrims, ce sont finalement les novices du temple qui sont envoyés partout dans le monde pour leur sagesse et qui sont chargés de résoudre des conflits. Le temple reçoit des lettres. Il reçoit plein de lettres manuscrites envoyées par les gens qui ont des problèmes, et ça peut être n'importe quel type de problème. Et le premier exemple qui est donné, et qui est finalement celui qui est donné en exemple partout dans le truc, c'est tu as une petite fille qui habite dans une petite maison sur une toute petite planète, et donc elle est là avec son chien, son poisson rouge et tout ça. Et en fait, son île, enfin sa planète a été avalée par une baleine cosmique. Et elle demande de l'aide.
Heureusement que le facteur passe par la baleine.
Alors voilà, donc il y a voilà, c'est ce type d'aventure qu'on peut avoir à faire. Il s'agit d'aider les gens. Ces jeunes gens sont donc chargés de résoudre des conflits qui sont particulièrement compliqués, quoi. C'est un jeu où
Oui, alors le système.
alors le système de jeu, alors c'est un jeu qui se joue en tour par tour finalement, puisque chacun incarne un personnage. Il n'y a pas de MJ.
Oula, tu pars sur une mauvaise base là. Tu vas tomber dans le narrativisme bientôt. Attention.
Attention, oui, si ça continue, je vais finir sur un narrativiste.eu. Non, mais oui, effectivement, donc c'est un jeu sans MJ, donc dans lequel chacun des joueurs incarne l'un de ses pilgrims. Lorsqu'un pilgrim finit une de ses actions, c'est au tour de celui qui est à côté de lui de faire ses actions. Et pendant ce temps-là, tous les autres joueurs jouent le rôle des PNJ.
D'accord.
Voilà.
Tout en préparant peut-être ce qu'ils vont faire ensuite.
Oui, voilà. Donc
Dans leur tête.
chacun a finalement son moment où il est le centre de
Ah,
l'attention
c'est rigolo comme
et où on
système.
joue et où finalement tu joues toujours avec les autres, simplement ils n'ont pas le même rôle.
C'est un peu comme il était une fois, mais en jeu de rôle quelque part.
Non, pas vraiment, parce que dans Il était une fois, tu es au... Ah, quoique... Ah oui, alors,
Oui, il n'y a pas de compétition comme dans les
il y a un truc que j'ai pas dit encore, c'est que donc les missions remplies par les personnages sont donc une mission, c'est une lettre envoyée par quelqu'un, tu vois, avec une situation à résoudre. Et sur cette lettre, tu as d'une part des petits symboles qui te permettent de savoir de quoi va parler ce scénario. Si c'est un truc d'intrigue, si c'est un truc politique, si c'est une histoire de famille, si c'est une histoire d'amour, si c'est un truc comme ça. Et donc tu as des petits logos que tu peux voir là en bas
Oui,
de la
je vois
page,
ça, oui.
voilà. Et tu as également des goal words, donc ils sont des mots qui sont affichés, ok. Et en fait, quand tu fais agir ton personnage, tu places un ou plusieurs des mots qui sont écrits là-dessus de façon à faire évoluer l'histoire. Et en fait, à la fin, normalement tous les mots sont barrés et tu termines le scénario. Alors, si t'as pas réussi à placer tous tes trucs ou si t'en manques, enfin bref, si t'as un décalage dans ton exploitation des mots
Oui.
par rapport à la situation, ça peut faire foirer le truc.
D'accord, c'est intéressant.
Ça, tu peux, enfin, ton personnage peut se planter, etc. Alors, le système lui-même n'utilise pas de dés, c'est un jeu avec des jetons.
Ça y est, tu replonges là.
Oui, voilà, oui, je sais. Mais moi, j'aime bien les jeux qui te proposent un petit des trucs différents.
Oui.
Moi, j'aime bien, par exemple, mon copain Antoine Bugli, il a créé un système de jeu dans lequel on choisit au hasard dans un sac des nouilles, enfin des penées plutôt, avec des trucs écrits dessus. Bon, moi, j'aime bien avoir des systèmes comme ça où on lance des canettes de bière ou des haricots.
Oui.
Enfin, des capsules de canettes, parce que les canettes elles-mêmes, c'est un peu... voilà.
Des haricots ou des rondins de bois.
Ou des rondins de bois, comme dans les jeux de...
du
Pays de Galles, voilà. Bref, oui, donc c'est un jeu qui se joue avec des jetons que l'on pioche au hasard dans un sac. Et donc, tu pioches trois jetons qui sont noirs ou blancs. Donc, tu as ou un blanc de noir, ou un noir de blanc, ou trois blancs, ou trois noirs. Et selon ces quatre situations, il y a des jetons que tu repasses à tes voisins. Je te passe un peu les détails. Et donc tu te retrouves avec un certain nombre de jetons qui finalement vont orienter ta narration. C'est-à-dire le personnage accomplit l'un de ses objectifs, mais il va créer un autre problème à un autre endroit, ou alors il réussit complètement son objectif, ou alors il réussit pas. Donc bref, il y a un certain nombre de situations comme ça qui sont listées en fonction du nombre de pierres que tu as. Moi, j'ai pas encore réussi à mémoriser les cas en question, parce que vraiment les systèmes de jeu, quand ils sont pas vraiment hyper simples, j'ai du mal. Donc il y a plein d'idées de manipulation de trucs, et surtout c'est un jeu donc écrit, c'est-à-dire que lorsque tu vas placer les fameux goal words dont je parlais tout à l'heure, il va te falloir écrire le texte. Finalement tu peux relire ton aventure à la fin.
Ça c'est super de relire. Alors, moi je me souviens que j'ai longtemps fait ça, c'est-à-dire j'écrivais ce qui s'était passé durant l'aventure.
Ouais. Mmh.
Et c'est rigolo de lire ça.
Alors, j'ai déjà fait ça, mais souvent c'est trop décousu pour que tu puisses.
Ouais.
Enfin, moi, j'arrivais pas à prendre des notes et à jouer en même temps.
Oui,
vraiment,
c'est pas évident. Ouais. Des indices. Une discipline, un peu de travail.
Ouais. Des indices, ça va, mais.
Ouais.
J'avais vu, par exemple, comment il s'appelle déjà ? Je jouais avec Eric à.
Archipel ?
Non, pas Archipel, à
Hawkmoon,
à Puddle.
Puddle,
c'est Puddle. Aussi un jeu narrativiste, machin, tout ça. Et donc il y avait l'un des joueurs dont le nom m'échappe là à l'instant, et qui est dessinateur en même temps. Il avait fait un résumé de toute l'aventure, et c'est vrai que c'était assez marrant à lire.
Et,
surtout
et
qu'en plus, lui, il faisait des petits.
Jeune O. Qui d'autre dessinateur? Didier Guizric, il fait des petits crapougnats. C'était lui?
Ouais, non, pas du tout. Non, là, je sais plus, je te dirai le nom, son nom m'échappe là pour l'instant. Je crois que c'est lui qui avait fait les dessins de Star Drakkar. Alors là, je te pose une colle.
Ouais.
Bon, bref. Donc, le système de jeu, ça s'est fait.
Il va y avoir des suppléments
Les suppléments, en fait, il y en a déjà un qui
c'est
est...
Ré, c'est ça?
Pardon?
Ré, non?
Do, Ré.
Attends, ça fait 10 minutes que j'essaie de la placer.
Oh la vache, tout ça pour ça. Alors, donc il y a déjà en fait un espèce de petit supplément qui finalement est un recueil de missions, puisque c'est un recueil de lettres.
C'est comme un... Une accroche de scénario à chaque fois.
Ouais, exactement. Et du coup, je trouve que le principe est très cool parce que ça te permet d'écrire un scénario très vite. Et en choisissant bien, effectivement, les goal words et tout, je pense qu'il faut un petit peu de pratique pour savoir quels sont les mots à utiliser. Je sais pas, faut tester. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'aimerais bien. Et alors, ce qui est marrant, c'est que sur le bouquin, ils disent que c'est à partir de 12 ans, 12 ans et plus. Et à la réflexion, je pense que ça peut être vraiment pas mal, parce qu'à 12 ans, tu es rentré en 6e, je crois, un truc comme ça. T'es en 6e, et donc tu commences à pouvoir t'exprimer par écrit à peu près correctement.
Correctement,
enfin,
ouais.
Voilà. Et donc avec un jeu comme ça, tu peux.
Faudrait quand même un adulte parce que c'est écrit en anglais.
Oui, oui.
Enfin...
Ah mais non, mais évidemment il faudrait que quelqu'un le traduise. Suivez mon regard sur la boîte à eux. Et aussi, je l'ai pas dit dans les news, mais parce qu'en fait, j'en suis pas complètement sûr. Mais il me semble que narrativiste.eu, ils veulent. Je sais pas si tu connais ce site. Hein.
Je ne fréquente pas ce genre de site.
tu ne vas pas dans ce genre d'endroit. En fait, c'est déjà dans les liens de Radio Rollist. Donc c'est un site qui est pour les fous furieux qui aiment bien les jeux sans MJ ou les jeux avec des cartes ou les jeux avec des pions ou les jeux avec n'importe quoi. Les jeux avec des escargots vivants, tu les fais se déplacer sur un truc. Non, je déconne, mais ce serait marrant.
Là, pour le coup,
et donc c'est un forum et également un site où ils stockent un certain nombre de jeux. Gratuit quoi, ou des traductions de jeux norvégiens notamment, parce que le savais-tu, il y a toute une mouvance de jeux narrativistes norvégiens.
J'ignorais, mais je trouve ça très intéressant.
Voilà, et donc des trucs qui sont assez intéressants, notamment le très bon Zombie Cinéma, qui permet de jouer des personnages d'un film de zombies au fur et à mesure que l'invasion zombie progresse.
D'accord.
Oui. Bon, bref, je reviens à mon sujet. Putain, je suis parti tellement loin que je ne sais plus du tout de quoi je parlais.
Tu parlais de narrativiste.eu ou un truc.
Oui, narrativiste.eu qui va bientôt publier des jeux, j'ai entendu.
D'accord.
Voilà. Et donc,
des jeux norvégiens, je sais qu'il y a ils ont toute une mouvance là-bas. Notamment.
Arrête, Andouille. Tu veux que je te montre mes photos de vacances? Alors, donc pour revenir à mon sujet initial, c'est-à-dire donc ce petit supplément qui s'appelle The Book of Letters, je pense qu'il doit être aussi vendu en PDF et qui donc a une cinquantaine de pages. Voilà, une cinquantaine de pages. Donc ça fait 25 scénarios. Donc c'est pas mal, quoi. Donc pour conclure un petit peu, je n'ai pas encore pu le tester. Je demande à voir. Je pense que ça peut être très rigolo. En tout cas, le livre est vachement joli. J'aime beaucoup ce qu'évoque l'univers avec ces espèces de baleines volantes et tout, et ces petites îles planètes.
Un petit côté méga ou Everwhere, enfin tous ces univers où le principe est justement de se déplacer à chaque fois dans un nouveau contexte totalement
différent. Oui, voilà, c'est ça. Tu réinventes complètement le monde. Et c'est marrant, c'est un peu comme dans Star Trek, c'est-à-dire que les personnages, quand ils sont envoyés sur une planète, ils doivent respecter les croyances de la planète en question. Et par exemple, donc s'ils ne croient pas au Flying Temple, la majorité des gens, ils doivent pas dire qu'ils en viennent, si tu veux. Ils doivent se plier un peu aux règles locales. Donc voilà, c'est un jeu vachement sympa. Et c'est 6 et des bananes sur RabbitJDR. Donc franchement, oui. ça vaut le coup si vous aimez un petit peu ce genre de jeu.
Juste une dernière question.
Oui.
Donc sérieusement, comment ils font pour la poste? Pour recevoir les lettres et tout?
Alors, c'est expliqué dans le jeu, mais je m'en souviens plus.
D'accord.
Mais il y a vraiment une explication. Probablement un peu fumeuse, mais il y en
Ils
a une.
Ils ont des complices dans toutes les postes de tous les univers.
Mais en fait, c'est peut-être un peu comme des bouteilles à la mer. C'est-à-dire que si tu lances une bouteille suffisamment loin en l'air, elle peut partir et dériver dans l'espace et être récupérée.
Bête, ouais.
Ah. En visant bien, ouais. Donc voilà, écoute, Cyril, c'est à toi maintenant.
Oui, c'est à moi, je vais vous parler de Barbarians of Lemuria. Je vais vous parler de Barbarians of Lemuria. J'ai bien prononcé, j'espère?
Oui, tu as très bien prononcé.
Merci.
Fous-toi de moi.
Alors, Barbarians of Lemuria, c'est un jeu qui apparemment est... Et très renommé, je lis derrière, considéré comme un des meilleurs jeux de rôle de Sword and Sorcery par de nombreux critiques. Il bénéficie enfin d'une traduction française.
Je trouve que ce jeu est excellent.
Et donc c'est édité par les Livres de l'Ours, originellement chez Beyond Belief Games.
Dont l'auteur est Kobayashi, si je me souviens bien. Enfin, le traducteur.
Oui, tout à fait. Kobayashi, tu connais?
Alors, il me semble que j'ai... Ça date d'il y a très longtemps, mais il me semble que je vais acheter sur Cassius Eno son exemplaire de Space Hulk. Il me semble que c'est à lui, je sais plus, je suis
d'accord.
Pas sûr.
Bah, en tout cas, il est effectivement responsable de ça. Et illustration de John Grumpf, enfin voilà, Patrick Larsenet, relecture. Relecture des Bad Buok, c'est rigolo parce que j'ai revu il y a pas longtemps la série de ses chats sur YouTube. Et Bad Buok.
Ah oui, oui,
ça n'a rien à voir, mais quand on voit l'ours, souvent. Voilà. Bref, ça fait des bons souvenirs, tout ça. Alors, Barbarians of Lemuria, donc, c'est un jeu de Sword and Sorcery, donc, c'est-à-dire un jeu à la Conan.
Oui.
Ça tombe bien, je crois que d'ailleurs, Conan, maintenant, c'est libre de droit, je crois. Non ?
Ah bon ?
C'était il y a bien longtemps, non ? Il me semble que c'était des années 20, années 30.
Oui, c'est possible.
Enfin bref, de toute façon, c'est pas une adaptation
mais
officielle.
Aux États-Unis, la durée de droit d'auteur est différente.
Possible. Oui. En tout cas, c'est
pour éviter que Mickey tombe dans le domaine public, en fait.
Ça vaudrait le coup de se renseigner, mais en tout cas, c'est pas une adaptation officielle, mais c'est vraiment l'esprit du jeu. Il va y avoir un monde assez. Assez dispersé, encore une fois, un peu comme dans Metal Adventure, c'est un monde qui laisse sa place aux héros individuels. Héros d'ailleurs qui peuvent peut-être juste rouler pour leurs pommes, et qui peuvent se balader d'endroit en endroit, s'ils le souhaitent, redressant des torts, mais certainement aussi en s'appropriant des trésors et en renversant des tyrans, etc.
D'accord.
C'est un jeu. Très quand même simple, il faut bien l'avouer, à oui. appréhender. L'univers est très classique, hein, donc voilà, des magiciens, des barbares,
des serpents géants,
des serpents géants, voilà,
des monstres mythiques.
Des monstres mythiques. Les règles, alors je vais vous demander un petit peu de concentration parce que c'est quand même assez compliqué. Alors les règles, on prend votre carrière. Imaginez que vous êtes barbare, vous êtes barbare 2, on va dire, un barbare pas débutant à 1, mais un barbare un petit peu qui a un petit peu de pillage derrière lui. Et puis imaginez que vous soyez, je sais pas, dans le cas d'un concours de bière, n'est-ce pas,
le
fameux concours de bière. Et là, la difficulté est de 9, une difficulté de base. Hein, voilà. Normalement, toutes les difficultés, c'est 9 hein, à la base. Uh-huh. Donc, vous allez lancer 2 dés à 6 faces. Donc, des dés à 6 faces, hein, c'est compliqué, mais il faut retenir. Plus 2, et il faut faire 9 pour gagner.
D'accord.
Voilà, donc je peux répéter peut-être parce que c'est un moment il y a une complexité au niveau des règles.
C'est... Non, je pense que même moi là j'ai compris.
Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un jeu minimaliste au niveau des règles. Le but n'est pas de faire de la simulation. Le but est de faire de l'action rapide et de permettre à l'histoire, à l'aventure d'avancer.
D'accord. Et justement, au point de vue des règles, est-ce qu'il y a quand même des petits bidules qui te permettent de, comment dire, de
lancer des sorts
sur les actes héroïques pour les choses comme ça
Je me souviens pas, mais ça fait.
Ouais, mais je veux dire des.
Ah oui, les points d'héroïsme. En fait, ça permet de faire des toute une gamme de capacités en fait sont accessibles avec des points d'héroïsme. En fait, c'est pour tricher avec la mort, pour avoir une seconde chance, pour pas être dépendant en fait d'un jet de dés.
Voilà.
De toute façon, c'est vrai que c'est assez cruel. C'est un peu le même mécanisme que dans les livres dont les héros, le fait de garder un doigt sur la page. c'est un peu la même chose.
Ah oui, il faudrait carrément un outil qui s'appelle garder le doigt sur la page. tu peux revenir à ton choix précédent qui t'a mis à la mort.
Je parle de livre 11 et l'Euro et j'y viens. En fait, ce jeu, c'est un jeu de rôle pour livre 11 et l'Euro à la défi fantastique. La première gamme, la Fighting Fantasy avec le sorcier de la montagne de feu, le labyrinthe de la mort.
Moi, j'en avais un, c'était le temple de la malédiction.
Voilà, le temple de la malédiction. Exactement.
Avec un magnifique serpent.
Oui,
un homme
je me souviens tout à fait.
Sur un fond de cité désertique.
Et
c'était hyper beau.
Les noms sont à l'avenant. Hein. On a, je sais pas, les marais de Kasht, les îles du crâne, la côte de feu, la forteresse de la reine sorcière, etc. C'est des noms qui sonnent, ouais. qui sonnent durs à l'étendard de la destruction.
C'est un nom qui claque au vent de la destruction. Merci. Comme un étendard funeste.
Voilà. Et en fait, c'est un jeu qui a quand même relativement peu de background par rapport à beaucoup de jeux de rôle, hein. Tout est laissé à l'imagination. On retombe souvent sur des clichés. C'est un jeu à clichés.
Tout à fait. Voilà. Oui. On joue là-dessus à fond.
C'est une invitation au voyage, mais avec les grands classiques qui tout de suite nous viennent. Hein. C'est le roi scorpion, c'est des trucs comme ça. En fait, je pense que ce jeu, il aurait tout aussi bien pu être réalisé sous la forme d'un livre dont vous êtes le héros. Comme il y avait eu Terre de légende ou d'autres jeux ou L'œil noir sous format livre de l'Euro, petit format,
ouais.
format poche. Uh-huh. Ce jeu, il est fait pour être joué, hein, comme Metal Adventure. C'est pas un jeu, je trouve.
Oui, bien sûr, et tout à fait. Ouais.
C'est pas une somme théorique sur le jeu de rôle. Là encore, c'est vraiment un jeu simple. Il suffit juste d'avoir deux dés à six faces et on peut pas
faire une épée à deux mains.
Une épée à deux mains, beaucoup d'enthousiasme. Les illustrations sont, c'est mon goût, hein, pas inoubliables. Enfin, certaines sont plus réussies que d'autres. Je pense qu'en fait, elles auraient tout aussi bien pu, elles auraient pu garder leur impact, on va dire, en étant un peu plus petites, avec un format un peu plus petit. Et je pense que ça aurait été un meilleur format pour le prendre dans la cour de récréation ou en train ou dans un espace où on n'a pas forcément forcément moyen de déployer la table avec les figurines pour faire un truc un peu simulationniste. Là, ça, pour une fois que ça l'est pas, capitaliser là-dessus, quoi.
Voilà, tu regrettes que finalement cette simplicité ne soit pas encore plus prégnante en utilisant un format.
Oui, je reproche pas au jeu d'être simple. Hein. Au contraire, moi, je veux dire, un de mes meilleurs souvenirs de jeu de rôle, ça devait être en 5e, je crois, donc j'avais 12-13 ans dans ces eaux-là. Et c'était un jeu de rôle avant qu'on achète des jeux de rôle et sache vraiment ce que c'était que le jeu de rôle. Donc on était un petit peu dans l'inconnu.
Ouais.
Avant que nous sachions, hein, je ne suis pas aussi vieux au point que le jeu de rôle était inconnu à l'époque, mais
oui,
c'était bon, en gros, il y avait une caractéristique, genre acrobatie, on pouvait faire des choix très très simples. Qui ne nous empêchait pas de vivre des aventures extraordinaires parce que l'imagination régnait.
D'accord.
Ça donne le minimum de structure nécessaire. Ça pousse dans la bonne direction. Après, y a une aventure dedans. Une aventure d'ailleurs dont mes joueurs riraient parce qu'ils avaient l'habitude de m'accuser de commencer tous les scénarios dans une prison.
Les personnages dépouillés de tous leurs biens.
Oui, mais c'est très pratique, les prisons, pour que les joueurs jouent ensemble.
Oui, ça démarre aussi, à zéro.
Ça commence aussi dans un contexte comme ça. Enfin, voilà, c'est un cas classique du héros prisonnier. C'est un Barbarians of Lemuria. Hein,
dit, quand tu parlais du format, je pense quand même que le format livre de poche est quand même vraiment pas adapté parce que tu peux pas le livre tient pas ouvert. Oui, et quand tu dois chercher des trucs dedans,
qu'est-ce que tu veux chercher dedans, franchement,
c'est vrai.
Non, mais oui, bien sûr, tu veux chercher dedans. Il y a quand même des espèces de fiches,
des fiches de perso,
des petites pages d'aide qui récapitulent notamment les sorts, qui récapitulent à la fin, la fiche de personnage. Bon, bien sûr, faut imprimer tout ça et l'avoir à côté, mais ensuite. Je pense pas qu'on ait besoin de laisser ouvert le livre très longtemps. C'est pas comme s'il y avait des trucs super complexes. Ouais. Je me souviens effectivement qu'on crée un personnage, disons un donjon et dragon. Oh là là, effectivement, c'est pas mal de digérer la table machin pour comprendre.
Ouais, mais oui, évidemment, mais de toute façon, ce genre de bouquin ne peut pas. Il est tellement grand en nombre de signes. Que de toute façon, il peut pas tenir dans un format pareil, ou alors ça devient un volume de chez Bouquin avec 1500 pages.
Bon, Barbarians of Lemuria, Lemuria, oui. Pardon, n'est pas très, très grand.
Non, il est tout fin, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Pages, 90 pages
90 pages, ouais.
C'est très correct.
Ouais, mais justement, moi j'aime bien ce genre de jeux qui sont vite. Qui sont rapides à assimiler, en fait.
Alors, ça t'a coûté combien? Parce qu'il n'y a pas de prix dessus.
Il n'y a pas de prix. Je ne sais plus. J'en sais rien. C'est peut-être entre 15 et 20 euros, non? Un truc comme ça, non?
D'accord.
Moi, je dirais ça. Franchement, je m'en souviens plus.
Ok. Bon, ben, voilà. Hein, je pense que ça peut être sympa si vous avez décidé de faire un long voyage en train et que vous avez 2 dés à 6 faces.
Et des copains.
Et des copains. Mais c'est bien parce que là, on a de quoi jouer dans la cave avec Metal Adventure. De quoi jouer dans la voiture sur la route des vacances à l'arrière sur la banquette avec Do.
Oui.
et là pour le train ou
oui, pour le retour en train.
Pour le retour en train, on a mais
Barbarian. Si tu vas en voiture et que tu repars en train, a priori c'est que tu laisses la voiture sur place. Il y a peut-être un petit problème. Oui, mais pendant le retour en voiture, le conducteur peut écouter les apéros du Captain Web. Et ça, c'est plutôt bien. Bon, eh bien, on a fait le tour de ce qu'on avait raconté.
Ouais.
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 Bon, eh bien, écoute, Cyril, merci. Merci à toi. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là.
Merci, Kamal.
Et puis, à bientôt pour la prochaine émission. Allez, ciao.
Salut.